Direction vous remercie. Marceau le midi.
13h08, exceptionnellement, on est en retard.
Exceptionnellement, c'est pas dans nos habitudes. On est vraiment désolé, mais les auditeurs le savent pas.
Exact.
Ils sont avec nous, sur l'heure du lunch, ils ont du fun. Mais David le sait, lui.
Oui, on parle justement de retardataire. David Chabot, salut.
Ouais, c'est de ma faute. Je vais prendre le blanc.
Que penses-tu des gens qui sont constamment en retard?
C'est ordinaire, hein?
Ouais. Ah, écoute, je peux pas vraiment lancer la première pierre, hein. Tu sais, comment est-ce que c'est dans l'histoire du petit Jésus, là, qui n'a jamais pêché, lance la première, là.
Ouais.
Non, je serais pas le premier.
J'essaye le plus possible de pas être en retard. Malheureusement, des fois, on parlait avec Nicolas Gagnon tantôt, puis on parlait du salaire des députés fédéraux. Je pensais pas que c'était aussi élevé que ça, tu sais.
Ouais, ben, je trouve que le salaire des députés est assez élevé, mais le salaire du premier ministre, tu sais, honnêtement, c'est de l'ouvrage, là, être premier ministre, même malgré ce qu'on en pense de Justin Trudeau ou les autres, là, c'est de l'ouvrage. Fait que celle-là, je ne le trouve pas si exagéré que ça.
Mais il était prof de théâtre. Là. Il devait faire un 50 000 par année, il se ramasse avec un 400. Je veux dire, ça se prend bien quand même.
Tu joues ta pièce.
Ouais, mais je pas. D'après moi, dans son compte de banque, il y en a plus que 50 000 par année, là, mais ça, c'est un autre histoire.
Ben, il est riche de par son père, là, que, de par son père, ce qu'il lui a légué, des terrains épouvantables qui valent des petites fortunes. Là. Mais oui, à 400 000 par année, d'après moi, il ne doit pas manquer de rien. Mais les députés fédéraux, écoute, je me rappelais dans le temps que c'était autour de 170 000. Donc là, ça date de plusieurs années. Puis là, c'est autour de 200, 215, 217 qu'il nous a dit à peu près. Dans ce coin-là de mémoire, c'est très, très bien payé. Surtout que la Chambre est prorogée là, pendant quelques mois.
Oui, c'est de l'argent. Puis sincèrement, les députés, c'est important qu'ils soient là. C'est genre la courroie de transmission, mais c'est pas si de l'ouvrage que ça être simple député, bien qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres, là, mais... C'est de l'argent quand même pas mal là, pour un simple député, c'est clair.
Exact. Parlons du grand orange ou du gros orange, tout dépendant de comment ça file. Orange qui décide de prendre les choses en main, qui veut parler avec Vladimir Poutine. Un de ses conseillers principaux a discuté avec Vladimir Poutine il y a de ça quelques jours, puis il y aurait une rencontre qui serait prévue avec lui. Là, ça stresse les autres pays européens, ça stresse Volodymyr Zelensky parce qu'il dit « ouais, on aurait aimé ça être impliqué ». Mais de ce qu'on comprend, puis toi, tu sauras me l'expliquer, ce qu'on comprend, c'est qu'il va être impliqué, l'Ukraine va être impliquée, mais après la rencontre entre Poutine puis Trump.
Oui, bien c'est ça. Il y a eu un appel entre Poutine et Trump dans les derniers jours, puis bien évidemment, tout ne s'est pas réglé là. On se rappelle qu'il nous promettait de régler ça en 24 heures pendant la campagne électorale, mais bon, personne ne croyait ça vraiment. Tu l'as dit, il y a vraiment un engagement de sa part, de Trump, je parle là, d'essayer de régler le conflit. Là, ce qui est particulier, c'est qu'ils veulent vraiment, je parle les États-Unis en termes d'organisation, là, ils veulent faire des discussions unilatérales entre eux et la Russie pour rétablir les ponts qui ont été cassés par Biden, puis aussi régler la guerre en Ukraine. Donc là, c'est quand même particulier de régler la guerre dans un pays puis que, justement, Zelensky soit pas impliqué directement parce que, de ce qu'on en comprend, les États-Unis vont faire l'espèce de tampon entre les deux. Donc, Zelensky va négocier avec l'équipe de Trump, puis après ça, l'équipe de Trump va négocier avec l'équipe de Poutine. Donc là, tout ça commence par une visite de Marco Rubio, qui est comme le secrétaire d'État américain, avec Sergei Lavrov, qui est comme pas son opposant, mais son équivalent, je devrais dire, en Russie. Tout ça en Arabie Saoudite. Donc là, ça va commencer de cette façon-là, mais qu'est-ce que ça va donner? Le mystère est complet.
Est-ce que Trump a une stratégie? Est-ce que Trump doute un peu de Zelensky? Est-ce que Trump a confiance en Volodymyr Zelensky? Parce qu'on sait qu'il y a de ça quelques temps, on se posait des questions à savoir, bon, tout l'argent qu'on a envoyé à l'Ukraine, est-ce que ça a été utilisé à bon escient? Est-ce que lui aurait peut-être pu prendre une portion de cet argent-là qui aurait disparu? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon lien de confiance entre les deux ou Trump s'en fout carrément?
Honnêtement, je pense pas qu'il y a de confiance parce que rappelons-nous que lors de l'élection en 2020, Trump avait mis de la pression pour sortir du dirt, là, en bon français, sur le fils de Joe Biden, là, Hunter, pour essayer de mettre de la pression sur Zelensky pour sortir des trucs des services secrets ukrainiens par rapport à l'implication du fils de Biden en Ukraine. Donc c'était vraiment ça n'a jamais été démontré, là, mais il y avait des choses un peu louches là-dedans. Donc c'est sûr que Biden, pour lui, Trump, pour lui, Zelensky, c'est vraiment pas un acteur crédible.
Sauf mais il côtoie, non, David? Je veux dire, il y a eu des demandes pour de l'armement, Trump était ouvert à ça. On dirait qu'il joue ses deux tableaux.
Ben assurément, mais tu sais, là, lui, dans le fond, il a été élu sur une plateforme isolationniste dans laquelle 170 milliards qui ont été envoyés en Ukraine depuis 2014, c'est inacceptable. Donc là, lui, il veut boucler le conflit. Puis, tu sais, dans la façon de faire de Trump, c'est vraiment de prendre le Kodak pour lui, si tu veux. Donc là, il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y ait d'enjeu vraiment de sa part de négocier une trêve à même les actifs d'un autre pays, finalement, en disant, regarde, Zelensky, c'est ça, puis c'est tout, puis vais avec. Parce que finalement, il va être le grand peacemaker de l'Ukraine. C'est lui qui aura réglé le conflit. Là.
Ça va finir comment, ça, pour Volodymyr Zelensky? Est-ce que tu penses qu'il devra quitter son pays pour, je sais pas, peut-être aller couler des jours un peu plus doux aux États-Unis? Est-ce qu'on va le récupérer? Parce que le jour où l'entente arrivera entre la Russie puis l'Ukraine, j'ai pas l'impression que Volodymyr Zelensky, il reste bien des années à vivre là, s'il reste là.
Oui, mais je le verrais plus comme en Allemagne ou en France, là, parce que dans tout ce grand débat-là, l'Europe devrait avoir un rôle beaucoup plus présent dans les négociations qu'elle a en ce moment. Eux, ils ont quand même donné 130 milliards en diverses formes, là, argent et armement. Puis, tu sais, c'est un conflit européen, finalement. Donc, c'est un peu un des points de Donald Trump, là, de dire que l'Europe aurait dû avoir plus de leadership. Là, il est pogné, là, dans sa vision à lui, il est pogné pour régler le conflit à leur place. Donc là, l'espèce de proximité Zelensky-Europe, je la vois très, très... forte dans les prochaines années, puis effectivement que Zelensky devra se tenir loin des cordes de porte, parce que c'est souvent ça qui arrive, des personnes qui les États-Unis veulent se débarrasser. Là. Mais c'est un peu triste ce que je dis comme situation. D'après moi, l'Ukraine devra céder beaucoup de territoire à l'est, redonner ce qu'ils ont saisi à la Russie au nord, puis finalement vivre avec un pays un peu en ruine où les États-Unis auront intérêt à investir et envoyer beaucoup d'expertise pour reconstruire le pays à grands frais. Là.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un désengagement de la part de Donald Trump sur l'OTAN? Je lisais un journal en fin de semaine, c'est Le Point. L'article est disponible sur Internet. C'est sorti le jour de la Saint-Valentin. On se posait la question si Trump pourrait sortir de l'OTAN, puis la réponse, c'est effectivement, dans les prochaines années, il pourrait sortir de l'OTAN. Là. Puis ça laisse présager peut-être le pire pour l'OTAN. Là.
Ben écoute, ça serait pas une bonne nouvelle pour personne, parce que Une des forces, finalement, pour balancer le monde là, en géopolitique, c'est les alliances, les unions. Là. Donc là, l'OTAN, c'est probablement ce qu'il y a de plus fort dans le monde en ce moment. Donc si les États-Unis, qui est le membre le plus fort de l'alliance, la plus forte, se retire, là, on va vraiment débalancer la structure de pouvoir dans le monde. Dans un univers où la Chine prend plus de place, la Russie s'est fortement affaiblie avec la guerre en Ukraine, mais a quand même maintenu son prestige en termes géopolitiques. D'affaiblir des unions ou des alliances comme ça, c'est pas une bonne idée. Je serais surpris qu'ils sortent de l'OTAN, honnêtement. Là, ça serait un tremblement de terre épouvantable, mais certainement ralentir son implication, couper certains engagements monétaires, puis tout ça, là, ça, je le vois très bien. Puis essayer de faire de la négociation bilatérale, parce que lui, Trump se voit comme un deal maker, donc il veut négocier tête à tête avec d'autres dirigeants et non pas être dans un assemblage comme l'OTAN ou l'ONU ou toutes les autres unions de pays comme ça. Là. Il préfère le bilatéral tête à tête, comme il essaie de faire en ce moment avec Vladimir Poutine.
Puis je sais pas si les autres verraient un peu le... Comment dire? Des fois, il faut être plus intelligent que son ennemi. Là. Je te parle pas d'un gros ennemi politique, mais clairement, tu vois Donald Trump, il faut qu'il fasse semblant ou qu'il ait la conscience de penser que c'est lui qui a dealé ça, que c'est lui qui a amené, mettons, l'OTAN à aller plus loin et autres. En tant que président ailleurs, premier ministre ailleurs, je sais pas si eux auraient l'humilité de se dire « Hey, on va gagner, mais en le faisant passer que c'est son idée, puis sa façon de faire, puis c'est lui qui a dealé ça. » Tu sais, des fois, il faut que tu sois plus intelligent puis tu laisses les gens aller autour, même si tu sais que c'est toi qui travailles en arrière. Là. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir faire avec Donald Trump? Puis encore là, on va-tu encore plus créer un monstre?
Ben écoute, parce que c'est facile de négocier avec l'argent des autres. Hein. On fait souvent la blague avec le gouvernement, puis on dit que les gauchistes, tu peux les reconnaître parce que quand ils ont fret, ils ont leur main dans leur poche et non pas dans celle des autres. Là. Donc c'est
alimente pas
bien,
ça, David!
Comment?
Alimente pas ça, t'en as un qui est bien crampé le bord.
Moi, je suis ton premier fan.
Écoute, je suis un grand démagogue, je m'en excuse, mais c'est ça pour dire que, tu sais, régler ça avec les ressources de l'Ukraine, c'est facile. Toi, tu vas céder tel territoire, cette ville-là, c'est plus une ville ukrainienne, mettons Kharkiv, c'est fini. Puis, écoute, tu tranches le pays en deux, de toute façon, t'en as en masse de terrain, puis tu t'organiseras avec le reste. Tu sais, il n'y a rien de plus facile que faire un deal avec l'argent des autres. Fait que c'est sûr que si on laisse l'Europe, en fait, si l'Europe laisse Donald Trump aller, je devrais dire, ben ça va finir comme ça, puis Trump va sortir de là avec les mains dans les airs en disant « Regarde, je l'ai réglé la guerre, il y a la paix en Europe », mais finalement, c'était au détriment de dizaines de millions d'Ukrainiens qui vont être déplacés ou qui vont vivre avec un passeport d'un autre pays, finalement, puis ça, c'est pas très rose en ce moment pour les Ukrainiens à l'Est, là. C'est sûr que dans une guerre, tout est sale, là, fait qu'il faut pas trop s'attarder, ben, en fait, faut s'attarder au sort des gens, mais c'est pas unique dans l'histoire, sauf que ça brasse, puis c'est pas le fun pour les Ukrainiens à l'est du pays. Là.
En fin de semaine, on avait tout un match de hockey, mon ami. C'était la confrontation des quatre nations. C'était le Canada qui affrontait les États-Unis en sol canadien. Est-ce que les Québécois qui étaient présents au Centre Bell ont envoyé un message à Donald Trump? Est-ce que les Québécois ont dit « on veut pas que les États-Unis nous annexent »? Est-ce que les Québécois détestent les Américains? Tu as perçu ça comment, les huées de l'hymne national?
Ben honnêtement, je trouve ça coco à mort là, parce que tu sais, je comprends le sentiment humain là, hey, tu nous cracheras pas dans la face, puis nous autres on est capable de se tenir debout, fait qu'on va te huer, sauf que tu sais concrètement là, c'est pas le peuple américain qui soudainement devient un ennemi au lieu d'être un allié, parce que historiquement ça a toujours été des alliés. C'est le dirigeant qui est en place à ce moment-là, fait que ça veut pas dire de se faire piler dans la face n'importe comment, mais huer un hymne national, c'est une façon de se mettre à dos 100% des Américains et non pas juste la frange, mettons, ultra-nationaliste à la Donald Trump.
Mais est-ce que tu penses que le thinking des gens est aussi profond? Parce qu'on a mis les hymnes nationaux dans la Ligue nationale de hockey pour rendre hommage aux Américains et aux Canadiens qui avaient perdu la vie, puis rendre hommage aussi aux sacrifices que les gens avaient fait. Tu sais, nous, on l'a lu, on connaît un peu l'histoire, puis de huer l'hymne national, on le ferait pas en raison du fait qu'on sait pourquoi ça avait été mis en place. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui restent en surface en disant « ben moi, le gros orange, je veux nous annexer, oui. Je suis fâché, puis je veux y démontrer que je suis fâché. » Puis là-dessus, je suis entièrement d'accord que ça
reste
des affaires à faire.
Mais c'est juste qu'il manque l'histoire en arrière de ça. Puis ces gens-là, c'est sûr c'est des bonnes personnes.
C'est ça. Puis tu sais, quand les Bruins viennent à Montréal, ben c'est les Big Bad Bruins, les méchants Bruins de Boston, puis ils ont les U. J'ai plus l'impression que les gens sont restés en surface dans leur pensée plutôt que, justement, là, le fait qu'on... On rendait hommage, avec les hymnes nationaux, on rendait hommage à nos vétérans.
Puis
je pense pas que les gens pensent à ça.
L'effet de groupe aussi, ben non, t'entends ça, là, tu te remémores juste le contexte, et, ils font ça, moi aussi. L'effet de groupe, en arrière de ça, Yann, j'ai l'impression aussi. Là.
Ah, clairement, je pense pas que les gens sont allés très, très loin dans leur réflexion. C'est très émotif comme situation. C'est la première fois que le Canada, comme Canadien, là, on soit Québécois et Canadien en même temps dans cette discussion-là. On se fait comme clencher par un allié en disant qu'on est des caves. Là. C'est la première fois que ça arrive. Fait que c'est sûr qu'on sait pas trop comment réagir à ça. Ce qui est un peu différent, par exemple, en Europe, où à toutes les semaines, il y a un nouvel allié et un nouvel ennemi. Là. Donc là, cette réaction-là est vraiment primaire puis très très émotive. Là. Puis je peux pas blâmer ces gens-là. T'sais, je parle du Centre Vidéo, Sandbell, excuse, puis toutes les autres, mais... c'est pas ça manque de finesse, puis il faudrait que nos dirigeants justement réalignent le tir en disant que c'est pas le peuple américain, c'est pas le pays américain qu'on aime pas, c'est le dirigeant pour l'instant, puis essayer de trouver une façon de manœuvrer stratégiquement à travers ça pour quand même s'avantager dans la situation, parce que sincèrement, c'est ça que Donald Trump veut. Je te garantis qu'il a pas regardé la télé pour dire que le Centre Bell y huait puis était content, mais la stratégie c'est d'user pour mieux régner, puis là ben ça marche très très bien en ce moment pour lui.
Ah, qui m'énerve.
Qui ça?
Donald Trump avec son leadership de division.
Je pensais que tu parlais de David, mais c'est enfin un peu de piquant dans cette émission-là.
Ben non, malheureusement, ça n'a pas que David.
Non, mais tu sais, moi, Justin Trudeau ne me représente pas. Donc, si un jour je rencontre un Américain qui déteste Justin Trudeau, je vais tout simplement lui dire que Justin Trudeau ne me représente pas. Comme lui, si ça ne fait pas son affaire, ce que Donald Trump met en place, tu sais, Donald Trump ne le représente pas lui. Je pense que les gens ont juste embarqué dans... C'est un effet de groupe. J'ai hâte de voir comment ça va être perçu aux États-Unis pour ce qui est du prochain match. Mais jeudi, là, malgré le fait qu'il y a eu de la bagarre, David Chabot, tu vas-tu être devant ton écran? Si c'est Canada-États-Unis.
On va suivre ça avec attention pareil, parce que ça devient un peu la nouvelle série du siècle. Là. Au lieu d'être l'URSS, c'est nos alliés qui sont les États-Unis, ce qui est un peu absurde, mais regarde, c'est sûr que ça attire l'attention, puis ça va être bon pour les codes d'écoute. Là. Batman va se frotter les mains ce soir-là, c'est sûr.
Hey, même moi, j'écoute, là. Fallait creuser, là.
Ouais, puis tu sais, je me contenais. Je sais pas si t'as pris le petit stop tantôt avec Denis, là, mais moi, je me contenais aussi. Denis a raconté que pendant que le match débutait, il était avec ses deux gars. Puis là, il y a eu de la bagarre avec Ketchuk qui a parti le bal. Puis là, ces deux gars, ils sautaient dans les airs en disant « Ouais, let's go, let's go! » Puis là, Denis il faisait semblant qu'il était comme outré.
Puis il disait « Non, les gars, moi, j'ai hâte que le hockey commence pour vrai. Ça, c'est pas beau. »
Je faisais un peu la même affaire, mais il y a des gens qui étaient bien forgés de ça. Marc Durand, journaliste sportif à Radio-Canada, que j'adore. Lui, il est vraiment pas pour ça, les bagarres dans la Ligue nationale de hockey. Ben d'accord, si t'es pas d'accord pour ça, c'est bien correct. T'as le droit de signaler ton point de vue. Mais écoute pas la game de jeudi prochain. Si le Canada est contre les États-Unis, ça va brasser en sacrifice.
Tu penses qu'ils vont encore se battre?
Ah, c'est sûr que les Ketchuk sont à surveiller. C'est ça que je voulais te dire pendant que Denis était là tantôt. David, tu l'as pas entendu, là. Mais Ketchuk, pendant les publicités, lui, se promenait sur la glace. Puis quand il croisait un joueur canadien, exemple Sidney Crosby, il distribuait des doubles échecs. Ces gars. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Chien du nez, là, qu'est-ce que tu me racontes? Là? J'ai le goût de commenter, mais je sais pas ce que tu me dis.
Donner des coups de bâton.
Lui?
En dehors du match, pendant que les gars étaient dans une pause publicitaire,
il exagère.
Il donnait des coups de bâton sur les avant-bras de Sidney Crosby.
Il exagère.
Les Canadiens ont été intimidés.
Mais là, lui, il va se faire avertir. Là, je veux dire, un deux minutes
il
de pénalité.
Il va se faire avertir.
Non, mais je veux dire, au cachot, va au coin du mur, on va mettre cinq minutes. Ah, on fait plus ça, je pense.
Pascal est encore aux EPE. Il va se faire avertir. Fait qu'on va regarder ça jeudi.
Un chapeau d'arbre dans le coin, mais tu sais, c'est un peu la même stratégie au hockey qu'avec Trump, finalement, parce que l'équipe canadienne, à mes yeux, a beaucoup plus de talent sur la glace, mais ils se font sortir de leur game parce que t'as deux catchers qui ébrasent d'un bout à l'autre, puis finalement, ben, on a perdu à cause de ça. Ben,
voir Connor McDavid se faire brasser de même, puis Brad Marchand n'a pas réagi ben. J'ai hâte de voir si on gagne aujourd'hui. J'ai hâte de voir jeudi si Brad Marchand va jouer sa game qu'il
joue
d'habitude.
Patience et douceur valent mieux que force et rage. David... Si là, Marchand commence à se battre, Yannick, puis il manque quatre dents officiellement, la game, sera pas mieux. Là.
Ça arrivera pas. David Chabot, je te remercie.
Merci.
On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Hé, qui m'énerve. Comment
ça, il t'énerve, David Chabot?
Fallait être là dans le segment.
David, c'est l'ami de tout le monde.
Oui, je l'aime beaucoup.
418-971-1021, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Nous autres, on s'en va en musique. Pascal va nous parler de son défi après ça. Linkin Park, Numb sur Boulevard. Merci d'être là.